La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Est-il encore représenté depuis hier? Il est avec nous depuis hier soir. C'est un ami que je vous présente. C'est toujours agréable de présenter un ami. Comme ça qu'on présente aussi Jésus aux autres, non? Comme un ami.
Ah bah oui.
Sylvain. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur toi? Tu as un CV, vous l'avez le prospectus, tout était dit. Alors je vais ajouter quelque chose. Peut-être. Hier soir, je t'ai présenté comme un ambassadeur de l'Évangile auprès des nations, auprès de nos frères et sœurs musulmans. Voilà, je pense. Je dirais aujourd'hui, je crois que le Seigneur t'a fait don, si t'as appelé à un ministère particulier, dans ce monde, dans notre monde, sur la planète bleue, auprès des musulmans, c'est parce que tu as le don des langues. On t'a déjà dit ça?
Oui, mais c'est pas vrai. Parce que les langues, je les ai appris, mais c'est très dur.
C'est vrai.
Beaucoup de travail.
Mais tu parles en langue compréhensible de tous ceux qui habitent sur cette planète. Donc, il y a quelqu'un qui connaît 10 langues ici dans cette. Alors, vous ne vous levez pas, lui, il est déjà debout. Donc voilà, je pense que le Seigneur t'a permis, au travers d'un don particulier, d'annoncer cette bonne nouvelle qui t'accompagne et qui nous bénisse au travers du message qu'il a placé dans ton cœur.
Oui. C'est vrai qu'une fois, j'ai eu le don des langues. J'étais en Ouzbékistan et j'ai parlé pendant une heure avec un dirigeant des imams. Et une année après, je me suis dit, mais on parlait de quoi? Je ne connais pas sa langue, il ne connaît pas ma langue. Et on arrivait très bien à se comprendre. Ça, c'est le don des langues. Ça, c'est le don des langues. Ben, mes frères et sœurs, mes amis et chers enfants, c'est un grand plaisir d'être à Damary-les-Lys, où je n'ai pas mis les pieds depuis très, très longtemps. En effet, mon père, Denis Romain, a été pasteur dans 3 églises parisiennes, Paris-Est, Versailles et Maraîchers. Et mon grand-père était directeur des Signes des Temps, ici, donc pendant des années. Ce qui fait que j'ai passé mes vacances, quand j'étais tout petit, à jouer ici sur le campus de cette magnifique propriété où je connaissais tous les petits recoins. Et j'ai fait beaucoup de bêtises, bien entendu. Et je suis toujours content quand je vais en Afrique, surtout en Afrique francophone, dans les pays d'outre-mer, de voir qu'on chante toujours l'hymne de louange imprimé à Damary-les-Lys, que mon grand-père a mis ensemble tous ces cantiques. Voilà. Donc, voilà. Vous savez tout sur moi, ça suffit, je suis pasteur, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, je suis très content de partager avec vous quelques idées sur comment atteindre les musulmans. Donc cet après-midi et demain, nous allons parler de Jésus dans le Coran, comment amener un musulman à Christ, au salut, à la paix avec le Christ. Et on va aussi prendre un sujet cet après-midi, où d'ailleurs les membres de dirigeants de la mosquée vont venir en principe, sur l'islam dans la prophétie, l'islam dans les derniers temps. Un sujet inédit, qui est très très peu connu et qui demande encore beaucoup de recherches, donc on va commencer cela. Et je vous préviens qu'on ne va pas pouvoir tout dire en quelques heures sur ce grand sujet de l'islam, c'est pas possible, mais je vais vous donner quelques petites clés que vous allez pouvoir utiliser avec vos voisins, vos amis, vos ennemis, vos collègues d'école, de travail, pour les amener à Jésus-Christ. Ce matin, je vous invite à une étude biblique et la question est de savoir si Paul, l'apôtre Paul, était une fois seulement dans sa vie ou pour la première fois à Damary-les-Lys, que prêcherait-il? Qu'est-ce que l'apôtre Paul prêcherait s'il n'y avait qu'une seule prédication? Quelle serait votre prédication si vous étiez une fois sur la chair? Paul nous répond dans 1 Corinthiens au chapitre 2 en disant au verset 2 la chose suivante. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 2. 1 Corinthiens 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La croix. Le message de la croix. Au chapitre 1, verset 17, Paul nous en parle en disant. 1 Corinthiens 1, 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La croix du Christ. Et il ajoute, car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il ajoute ensuite, au verset 22, 1 Corinthiens 1, 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs demandent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Scandale pour les Juifs. Comment quelqu'un peut-il prétendre être le Messie et mourir sur la croix? Paul, dans Galates 3, 22, va citer le Deutéronome, il dit « Maudit celui qui meurt sur le bois ». Comment un Messie, quelqu'un qui prétend être le Messie, peut mourir? C'est un objet de malédiction, la croix. D'ailleurs, beaucoup de musulmans ont le même problème en disant « Comment Jésus aurait-il pu mourir, lui qui est Al-Zaki dans le Coran, le pur ?» Les musulmans l'appellent le sceau, S-C-E-A-U, le sceau de la sainteté. Et c'est la raison, une des raisons pour lesquelles les musulmans renient le message de la croix. On en parlera demain matin. Pour les païens, les bouddhistes, les humanistes, la croix, une folie. Pour les enfants d'Adventistes, qui ont tous été gentils, qui n'ont pas tué, qui n'ont pas volé, qui lisent leur Bible tous les matins, qui prient avant de manger. Pourquoi quelqu'un doit mourir pour moi? Message de folie, la croix. Alors, on arrive avec notre théologie, à laquelle je crois. Notre théologie, à laquelle je crois. Que les réformateurs ont bien développé, que Jésus est mort à notre place pour que nous ayons la vie éternelle. Nous connaissons les textes, Jean 3, 16, bien entendu, et beaucoup d'autres. Jésus meurt à notre place dans le jugement pour payer le prix de mes fautes. Il me donne son bonus, comme les assurances, il y a des bonus, c'est ça? Il me donne son bonus pour que moi qui suis coupable puisse avoir la vie éternelle. Théologie classique, protestante, calviniste, adventiste. La question que je pose, c'est que si Jésus est juste mort pour moi, pourquoi sur la croix, d'une manière ignoble, avec beaucoup de souffrance, pourquoi Jésus n'est pas mort d'une crise cardiaque, pouf, ou d'un accident de voiture, je sais qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque, mais, ou tout simplement à l'âge de 90 quelque chose. Pourquoi sur la croix? Cette souffrance immonde, cette honte, pourquoi la croix? Alors, ceux qui ne croient pas que la mort est un sommeil, mais qui pensent qu'après la mort, on va directement au paradis, ils ont un petit problème avec, bien sûr, cette théologie. Ils ne peuvent pas citer Jean 3, 16, puisque ce n'est pas quiconque croit en lui aura la vie éternelle, mais tout le monde l'aura d'une manière ou d'une autre. Donc, la croix devient, non pas une substitution, mais une théologie de l'exemple. Si on veut être un bon chrétien, il faut souffrir. Il faut souffrir comme Jésus l'a souffert. Il y a des endroits aux Philippines où les gens se crucifient encore aujourd'hui. Même en Allemagne, au Bahamagaut, il y a un festival où on fête la croix, où des gens se font crucifier, en fait, maintenant ils ne le font plus beaucoup, mais aux Philippines ça existe encore. Ou même, dans d'autres endroits du monde, ce sont les chemins de croix où les gens font des kilomètres sur les genoux, saignant sur les rochers, pour plaire à Dieu et se dire, voilà, ça c'est un bon chrétien. Est-ce que ça, c'est le message de la croix? Alors vous allez dire, non, bien sûr que non. D'ailleurs, Jésus nous dit dans Jean au chapitre 10, et j'aime beaucoup ce texte, lisons-le, Jean chapitre 10, Jésus qui s'identifie au bon berger, il dit, je donne ma vie. Et il dit au verset 10, deuxième partie, Jean 10, 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus est venu pour que nous soyons heureux. Jésus a donné sa vie, puisque dans ce texte, il donne sa vie, pour que nous soyons heureux. Alors, on va prendre maintenant quelques minutes pour réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'est le bonheur? C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Vous avez déjà réfléchi à ça? Et en demandant à des gens un peu partout sur cette petite planète bleue, comme notre frère l'a dit, je me suis rendu compte qu'en général, le bonheur se définit selon trois choses. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je possède et qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? L'enfant qui naît essaie d'être soit le bel enfant, la petite princesse du jardin d'enfants. Quand on est beau, ça aide beaucoup. On sait mieux servir, paraît-il. Et puis il y en a, ils ne sont pas beaux de nature, alors il faut aider un petit peu. Quand on voit ce que les gens dépensent en coiffeur, en habits, en tout ça, c'est fabuleux. L'industrie de l'esthétique, c'est des milliards. Je ne veux pas trop vous regarder, moi je ne veux pas tellement coiffeur, mais bon. On veut être quelque chose. Si on n'est pas beau, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye d'être brillant, le petit enfant avec les grosses lunettes, c'est le petit génie qui répond à tout. À 3 ans, il sait compter, il sait lire, c'est fabuleux. Et si on n'est pas beau, si on n'est pas très intelligent, la troisième possibilité, c'est d'être gentil. Le petit enfant gentil, il sera pasteur. Il obéit toujours à sa maman, il fait la vaisselle. Donc, d'une manière ou d'une autre, on essaye d'être quelqu'un. Et bien sûr que si on est Miss Damarie Delis, c'est bien. Et quand derrière votre dos, les gens disent « Oh, qu'est-ce qu'il est sympa! Qu'est-ce qu'il a bien prêché! C'est le meilleur guitariste, c'est le meilleur pianiste, etc. » Ça fait quand même du bien, n'est-ce pas? Qui suis-je? La deuxième chose, c'est « Qu'est-ce que j'ai ?» J'ai une nouvelle Mercedes, j'ai une Rolex, j'ai une belle maison, plus belle que la maison du voisin. J'ai un titre, j'ai une belle famille, bien entendu, j'ai une belle cravate. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Et puis la troisième chose, c'est qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai bien élevé mes enfants. J'ai fait ceci dans la vie. J'ai fait un doctorat, encore une fois. Je ne parle pas de moi, je n'ai pas fait de doctorat pour l'instant. Mais ce que l'on fait dans la société, voilà ce qui nous rend heureux. Ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous faisons. D'accord? En gros. Hein. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous lisons la Bible, Dieu aussi a une sorte d'amour propre, pour ainsi dire, où Dieu se fait adorer même pour ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il fait. Je pense toujours à l'histoire de Job, Job au chapitre 38, alors que Job est en train de souffrir, de se révolter contre Dieu, il ne comprend pas ce qui se passe. Et alors, Dieu lui dit au chapitre 38 et suivant, Job, où étais-tu? Où étais-tu quand j'ai créé la terre? Et que les anges me louaient. Et Dieu commence à lui parler des autruches, de la neige, des crocodiles, en disant, Job, est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient la grêle? Est-ce que tu peux expliquer ceci? En d'autres termes, Job, regarde-moi ce que je suis. Et en fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous observons le sabbat. Pour ce que Dieu est, il est le créateur. Pour ce qu'il a, tout lui appartient, et pour ce qu'il a fait, il nous a créés, il a créé la terre, il nous a recréés, et il recréera les cieux et la terre. Nous avons tous ces psaumes, ils sont magnifiques. Psaume 95, fléchissons le genou. Psaume 95, verset 6. Car il nous a créés, prosternons-nous et humilions-nous. Et puis tous les textes dans Ésaïe où Dieu se compare, ou du moins il nous demande, est-ce qu'on peut le comparer avec les idoles? Vous savez, il dit voilà, un homme prend un morceau de bois, avec la moitié il va chauffer ses nouilles, et avec l'autre moitié il va faire une statue. Et vous voulez me comparer à ce Dieu? Qui sont ces dieux à côté de moi? Moi je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, nous dira Ésaïe. On en reparlera cet après-midi, puisque c'est la phrase clé de l'islam, la ilaha illallah. Donc il n'y a pas d'autre Dieu, je suis le seul. Et puis, bien sûr, le message des trois anges. Adorez celui qui a fait. Donc, Dieu a une sorte, pour ainsi dire, de self-esteem, comme on dit en français, d'amour propre, de bonheur à contempler ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il fait. Et c'est la raison pour laquelle nous l'adorons. Donc ça, c'est la première partie de ma prédication. Il y a 3 parties dans une prédication. Donc voilà, 1, 2, 3, c'est la première. La deuxième partie, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand ce que vous êtes, ce que vous avez et ce que vous faites n'est plus le top du top? Je ne sais pas, moi, peut-être que Miss Damarie Lélis se réveille un matin, elle a un rendez-vous chez le L'Oréal, disons, hein, on va le citer, ou la télévision. Elle se réveille et elle a un gros bouton rouge au milieu du front, Alors bon, ça se cache avec du make-up, mais quand même. Hein. Alors elle appuie, poup, ça fait une patate. Alors maintenant, elle a une... Comment elle se sent, Miss Madame Aylelis? Comment vous êtes sentie quand vous avez eu votre premier cheveu blanc? Ouh! Comment on est, quand on n'est plus vraiment le meilleur dans son domaine, comment est-ce qu'on se sent? C'est pas facile, hein? Et puis ce qu'on a, un lointain cousin à moi, je ne l'ai jamais connu en fait, mais il paraît qu'il était très riche. Il avait mis tout son argent dans les actions de la société la plus prestigieuse de la Suisse, Swissair. Un matin, il se réveille, Swissair avait fait faillite, tout son argent était parti. Comment est-ce qu'on se sent quand on perd tout? Ceux pour lesquels on a travaillé est détruit par un ouragan ou je ne sais pas quoi. Et puis ce qu'on fait, je ne sais pas si certains d'entre vous sont fiers de ce qu'ils ont fait. Moi, j'étais pasteur longtemps en Allemagne, alors les Allemands, ils font des bons gâteaux. Alors quand le petit Français y venait, les grandes grand-mères me faisaient des bons petits gâteaux, toutes fières d'avoir mis tout leur amour dans le gâteau. Et un jour, voilà que cette brave sœur de l'église, elle me donne son gâteau et elle avait mis du sel à la place du sucre. Oh, comment on sent là, ça? Ou alors vous avez tapé sur votre ordinateur pendant des heures, des jours, des semaines et pouf, le texte il est parti, fini. Comment est-ce qu'on se sent? Et je vais encore même, encore aller un peu plus loin. Comment est-ce que vous vous sentez quand quelqu'un touche votre honneur? Quand quelqu'un touche ce que vous êtes en vous insultant, en racontant des bêtises derrière votre dos, en ruinant votre réputation à l'école, au travail, sur Internet. Comment vous sentez quand quelqu'un touche, détruit, vandalise ce que vous avez? Vous avez une nouvelle voiture, une Ferrari, bien sûr, évidemment. Et, bon, peu importe, même si une Renault, c'est pas grave, une nouvelle voiture, et quelqu'un vient avec une clé et fait une grande trace sur la carrosserie. Là. Comment est-ce que vous vous sentez? Hein? Je pense qu'on a tous ce genre de... On voit ce que ça veut dire. Ce que vous faites, quelqu'un vous vole votre... Ce que vous avez créé, un livre, un morceau de musique, quelque chose, ou voilà. Lorsque vous perdez ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que vous avez fait, comment est-ce qu'on se sent? On ne se sent pas bien, hein? Mais j'imagine, quand Dieu voit la planète Terre, qu'il a construite une planète magnifique, où tout était parfait. Et vous savez, quand on est un musicien, par exemple, moi, bon, j'aime bien faire la musique, mais je ne suis pas le grand musicien, mais quand je chante, bon, j'ai l'impression que c'est bien, mais si on avait un professeur de musique, il perdrait tous ses cheveux en m'écoutant, comprenez? C'est-à-dire que Dieu est tellement parfait que toute imperfection doit lui faire mal. Et le péché, sous toutes ses formes, que ce soit que l'on ruine notre planète avec écologiquement, donc le plastique et tout ça, qu'on détruit les forêts, que ce soit l'injustice, que ce soit le mal sous toutes ses formes. Franchement, si j'étais Dieu, je prendrais cette planète et je la mettrais à la poubelle. Je me souviens une fois, j'ai acheté une voiture neuve, elle ne marchait pas, elle avait tous des problèmes. Un jour, j'ai envie d'aller voir le vendeur, j'ai dit, bon, voilà la clé, reprenez, j'en veux plus. Vous connaissez un peu ça? Quand il y a un moment où vous en avez assez de souffrir pour quelque chose que vous aimez, bon là on parle d'un objet bien entendu, et alors en principe même il y a une garantie qui vous dit que si plus rien ne marche, renvoyez-le, reprenez un autre. Et en fait Dieu aurait, si j'avais été Dieu, je ne le suis pas, je ne sais pas si c'est juste, mais je pense qu'il a bien une envie de dire, allez cette planète, on la détruit, on recommence à zéro. Franchement. Il ne l'a pas fait. Et nous, qu'est-ce que nous faisons qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vole ce que vous avez fait, quand quelqu'un touche à ce que vous êtes? Humainement parlant, il y a deux solutions. La première, c'est la vengeance. La vengeance. La vengeance, c'est quoi? La vengeance, c'est tout d'abord le désir que l'autre comprenne mes souffrances. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que celui qui nous fait du mal... Il a rayé la voiture et dit « Ah, oh, c'est pas grave, c'était pour rigoler. » Vous connaissez ça? Et puis, t'es bon chrétien, il faut pardonner. Hein? Alors, en plus, c'est vous qui avez tort. Hein? Et l'autre, il est tout content. Regardez dans la société. Celui qui trompe, c'est le héros dans les films. Celui qui commet l'adultère, c'est le héros. Tout le monde s'occupe du truand. Il a un avocat, il a une grande page dans les journaux, il a un psychologue. Qui s'occupe des victimes? Personne. C'est pas juste. Et puis souvent, les truands, ils se sentent très bien. Je me souviens d'un cas où une femme avait trompé son mari. Et pour le mari, c'était l'enfer, parce que ça, c'est vraiment l'enfer. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'enfer, eh bien, il y a l'enfer. Eh bien, l'enfer, c'est quand un partenaire vous trompe. Et la femme de Dieu, mais c'est pas grave, oublie ça, da-da-da. Bon. Jusqu'au jour où lui regarde une femme d'un peu trop près, et sa femme de dire, maintenant, je comprends les souffrances que je t'ai faites. Maintenant, je comprends. Donc, la souffrance, c'est le désir que l'autre comprenne mes souffrances. Et deuxièmement, c'est que l'autre paye pour les pots cassés. Si vous avez un magasin de porcelaine, j'arrive, je dis bonjour, je casse tout, puis je me dis, oh, désolé, je m'en vais. Vous êtes désolé, mais hey, qui c'est qui va payer ça? Hein, c'est comme à l'aéroport, vous savez, les avions sont en retard, et puis la dame, elle dit, we are sorry for the delay. Ouais, elle n'est pas très sorry, la bonne femme, parce que moi, je loupe mon avion, ça va me coûter 1000 euros et tout ça. Bon. Donc, qui va payer les pots cassés? Et la vengeance, le désir que celui qui a fait du mal, du tort, il paye pour ça. Donc, on le dit dans toutes les langues du monde, il va me le payer. Et la vengeance, il y a beaucoup de moyens de se venger. Je connais deux hommes qui ont tué leur femme, justement, pour une question d'adultère. Tous les deux, d'ailleurs un adventiste en plus, ont été en prison et m'ont dit, je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Je me sens très bien, j'ai fait ma vengeance. Mais vous savez, on peut tuer aussi avec des mots. Jésus dit, si tu dis à ton frère crétin ou je ne sais pas quoi, c'est comme si tu le tuais. On peut tuer quelqu'un avec des mots. On peut tuer quelqu'un en l'ignorant. L'ignorance, c'est le contraire de l'amour. En disant, dans certaines langues, alors dans toutes les langues, il y a tout un répertoire, mais en allemand, on dit par exemple, pour moi, tu es que de l'air. Tu n'existes plus. Je t'ignore. Tuer quelqu'un, l'enlever de son radar, son champ. Là. Est-ce que c'est bien? La vengeance. Alors, bon, bien sûr, on connaît les textes de la Bible en disant « Ne vous vengez pas ». La Bible dit « À moi la vengeance, Dieu ». Donc, on ne va pas se venger. Puis en plus, c'est vrai que si tout le monde travaillait selon le principe « œil pour œil, dent pour dent », ben, un certain jour, on serait tous bornes et on n'avait plus de dents. Hein, c'est comme ça. Donc, voilà, on est des bons chrétiens, on ne va pas se venger. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites avec c'est pas la haine, c'est la colère de que quelqu'un a touché ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous avez. La deuxième solution, c'est qu'on, au lieu de fâcher l'autre, on se fâche. C'est-à-dire qu'on commence à prendre la culpabilité sur soi-même. Là, il y a toute une étude psychologique à faire là-dessus. Et ça arrive très souvent. Je me rappelle d'un cas, encore un jeune d'une église qui est retrouvé pendu chez lui. Les parents arrivaient à la maison, ils pendaient avec un petit papier. Je me suis fait abuser sexuellement et je ne peux pas vivre avec cette honte. Je ne peux pas vivre. J'arrête de vivre parce que ce que je suis, ce que j'ai, ce que j'ai fait a été souillé, taché, détruit, et je ne peux plus vivre. Et là encore, il y a beaucoup de manières de faire le suicide. On peut bien sûr se faire harakiri avec une épée ou un pistolet, mais il y a des gens qui arrêtent de vivre tout simplement, qui arrêtent de vivre, qui n'ont plus le goût de vivre. Et ça se passe sur beaucoup de choses. Délaisser son aspect extérieur, se laisser aller, comme on dit en français, se laisser aller. Il y en a qui arrêtent de manger, il y en a qui mangent trop, il y en a qui prennent la drogue. Et peu importe quelle est la grandeur des lettres sur le paquet de cigarettes, la cigarette tue, les gens ne veulent pas vivre, donc ils continuent à fumer. Je ne veux pas dire que maintenant, tous ceux qui sont un peu trop gros, un peu trop minces, ont des problèmes d'estime de soi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ou des gens qui fument, tout ça. Mais c'est vrai que quand vous regardez ce monde, beaucoup de gens n'ont plus envie de vivre. Et que ce soit le suicide comme ceci ou comme cela, que ce soit la drogue, le piercing ou faire l'andouille, certes, souvent c'est les enfants, c'est le cas où quand notre honneur a été sali, c'est comme un morceau de corail qui commence à mourir quand on le touche. Et beaucoup de gens ne veulent plus vivre. Et c'est là que la Bible nous dit, mais je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance, que vous soyez heureux. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a une troisième solution? J'ai cherché et un jour j'ai trouvé un article dans un journal de quelqu'un, un Irakien, qui rêvait de se suicider avec une bombe. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas la solution. Hein, ne me citez pas en disant on va tous devenir des kamikazes, c'est pas ça. Mais il disait dans le journal la chose suivante. Les Américains ont mis la honte sur mon pays. Alors ça, bon, c'est très subjectif. Hein. Peut-être qu'ils mangeaient du cochon, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils se nettoyaient les chaussures avec les linges de toilette dans l'hôtel. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils faisaient. Mais je ne peux pas vivre avec ces hontes. Donc, il arrête de vivre, mais il dit, si je me tue, je vais restaurer l'honneur de mon pays. Alors ça, c'est un concept qui est peu connu en Occident, mais qui existe aussi, sauver l'honneur de quelque chose. Et en Orient, ça arrive très souvent. On a ce qu'on appelle le crime d'honneur, par exemple, qui se passe non seulement d'ailleurs chez les musulmans, mais aussi chez les chrétiens, de la même manière en Orient. Donc voilà ce kamikaze qui fait d'une pierre deux coups, pour ainsi dire, se tue et, en se tuant, restaure l'honneur de sa patrie. Et quand j'ai lu ça, ça m'a intéressé, parce qu'en arabe, un kamikaze, donc, ça s'appelle un fedayin. Et fedayin, c'est le mot feda, qui on en retrouve en hébreu d'ailleurs, pada dans la Bible, qui veut dire la rédemption, le rachat. Donc le rachat, c'est de racheter, de restaurer quelque chose, l'honneur en payant de sa propre vie. Et c'est intéressant parce que ce concept de rachat est très présent dans l'islam. D'ailleurs, notre frère a présenté un livre que j'ai écrit, que vous pouvez acheter quand vous voulez, après le sabbat ou avant, vous donnez un don et après, vous payez. Et un livre où j'ai donc 300 pages sur comment amener un musulman à Jésus-Christ, en utilisant le Coran d'ailleurs. Ce sont 600 textes du Coran. Donc, je cite cette histoire d'ailleurs là. Donc, vous allez retrouver une partie de ma prédication dans ce livre. Et au Yémen, on m'a raconté l'histoire suivante. Une jeune fille de 16 ans, qui n'est pas mariée, tombe enceinte. Alors bon, c'est pas comme Marie, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et dans ce pays-là, au Yémen, c'est un pays très conservateur, c'est la honte. La honte, vous savez ce que c'est? D'ailleurs, il n'y a pas qu'au Yémen que ça existe en France aussi. Moi, quand j'étais petit, par exemple, quand on venait chez mes grands-parents, on avait les cheveux longs, hein, on était petits gamins comme ça, on faisait des bêtises. Ah oui, j'avais les cheveux longs, ouais. Et mes parents me disaient, quand on va chez les grands-parents, « Moi, tes cheveux longs, ils ne te dérangent pas, mais il ne faut pas nous faire honte, hein. Faut pas nous faire honte. » Vous connaissez ça? Il ne faut pas nous faire honte. Hein. T'es enfant de pasteur, il ne faut pas faire honte. Alors, il fallait jouer le jeu, tout ça. La honte. Vous savez, c'est quelque chose, dans certains pays, plus vous allez dans le sud, même le sud de l'Europe, c'est très, très, très important. Très important. Et en effet, au Yémen, la fille enceinte, plus personne vient dans la boutique du père. Plus personne visite la maman. La famille est mise de côté. C'est la honte. La honte du village. Comment as-tu se passé? Et, effectivement, une des solutions dans cette culture, c'est le crime d'honneur. Donc le père a le devoir de tuer sa fille. Bon, moi j'ai une fille, j'ai jamais passé plus que 0,00000001 seconde à l'idée de un jour tuer ma fille. Mais dans cette culture-là, il n'y a pas d'autre solution. À moins que, et voilà ce qui devient intéressant. Au Yémen, il y a une vieille tradition qui s'appelle Fida, donc le salut, qui consiste à la chose suivante. Vous prenez un agneau, et si l'agneau meurt, il va restaurer l'honneur de la famille, donc le père n'aura pas à faire un crime d'honneur. Et j'ai raconté cette histoire un jour, et une dame qui habitait en Égypte m'a raconté la chose suivante. En Égypte, il y avait deux groupes de jeunes qui se sont bagarrés, ça arrive partout, hein. Et puis, il y a eu un meurtre. Il y a eu un meurtre, ils sont vraiment bien bagarrés. Et tout de suite, le village a décidé d'organiser ce qu'on appelle, devinez-le, Fida. Fida qui veut dire la rédemption. Alors ça se passe comme ça. Le meurtrier, on lui met un habit blanc, djellaba blanche. On le met par terre, on le tient avec les mains, et le frère du défunt prend un grand couteau et doit venger l'honneur en tuant le meurtrier. D'accord? Mais alors que tout le village est réuni, quelqu'un amène un agneau, un bel agneau bien blanc, et le pose à côté du meurtrier. Et alors que le frère du défunt essaye d'atteindre le cœur du meurtrier, les anciens prennent sa main et le forcent à ce que la lame tape dans le cœur de l'agneau. Et à ce moment-là, le sang gicle sur la gélaba blanche et Fida a été accompli. C'est la paix dans le village. Pas rigolo de mes prédications, les enfants. Heureusement, vous avez une bonne histoire quand même. Vous écoutez bien, c'est pas mal, hein. Et vous savez ce que ça vous rappelle, ça? Ça vous rappelle quelque chose quand même? Ben, lisez avec moi Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, voilà ce qui nous est dit au verset 11. Hébreux 13, 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Hors du camp, si vous lisez le Deutéronome, les Nombres, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Hors du camp, c'est là qu'habitent les lépreux. On croit qu'ils sont maudits par Dieu, ils sont punis par Dieu, ils habitent hors du camp. C'est là qu'on va brûler les excréments, ce qu'on ne peut vraiment plus recycler, dans ce qu'on appelle la Gehenna, l'enfer. L'enfer, en fait, c'est l'endroit où on brûle les ordures, hors du camp. C'est là que ceux qui ont violé le sabbat, qui ont maudit leurs parents, seront exécutés, hors du camp. Plus tard, hors de Jérusalem. D'accord? Et lisez ensuite ce qui se passe au verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors du camp, hors de Jérusalem. En d'autres termes, Jésus n'est pas seulement venu pour mourir pour nos péchés, mais il est venu pour rétablir notre honneur souillé, pour prendre sur la croix tes blessures d'enfance, dans l'éducation, à l'école, dans le mariage, au travail. Jésus est venu pour nous sanctifier, c'est-à-dire pour nous redonner notre joie de vivre, pour nous redonner notre estime de soi, pour nous redonner notre joie de vivre. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Mes frères et sœurs, mes amis, ça, c'est le message dont le monde a besoin. Un monde où tous, nous tous, et non seulement nous, mais les gens partout, dans tous les pays du monde, souffrent des blessures que ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait, a été détruit, a été souillé, a été ruiné. Nous tous portons ces blessures. Mais il est dit dans Ésaïe au chapitre 53, je finis avec ce magnifique texte que vous connaissez, mais je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'il dit vraiment, parce qu'il ne parle pas vraiment des péchés. Il nous dit ici au verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce n'est pas seulement nos péchés, mais ce sont nos souffrances, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Jésus est venu pour porter nos douleurs. Et mes amis, vous pouvez retourner le problème comme vous le voulez. Il n'y a pas d'alternative, soit de se venger, soit d'avaler la souffrance et d'auto-détruire, ou alors Jésus. Il n'y a pas d'autre solution que Jésus. Et c'est pour ça que Paul a dit, je ne connais aucun autre message, non seulement que Jésus est mort, mais que la croix. La croix est venue pour nous redonner notre honneur. Et j'allais dire aussi, si je puis terminer ainsi, pour permettre à Dieu de ne pas nous détruire. Je sais que c'est une théologie qui ne plaît pas à tout le monde, mais elle est biblique. Jésus est venu pour arrêter la colère de Dieu. Un autre sujet, on pourra en parler si vous voulez. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide ce matin. Parce que ce message parcourt le chemin le plus long de la planète Terre, qui va de notre cerveau jusqu'à notre cœur. Amen.